Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Rerieux, VSDS, aide et soins à domicile, innove et lance les équipes à responsabilité élargie. Nous sommes en compagnie de Séverine Guillot, directrice du VSDS. Elle est jointe par téléphone. Nouveau millésime 2022, Jean-Marc Lafont, viticulteur à Lantigné. Et en conclusion, Mâcon, exposition rétrospective des 10 ans du SPOT à la médiathèque. Calade, le journal. La COP27 s'est ouverte dimanche 6 novembre en Égypte. Réduction des émissions de CO2, financement des dégâts irréversibles du changement climatique, un article de Violaine Colmédage dans Reporter. L'objectif, discuter des moyens concrets à déployer pour lutter contre le réchauffement climatique et vérifier leur mise en œuvre. L'événement donc s'ouvre dans un contexte géopolitique tendu, à cause bien sûr de la guerre en Ukraine. Les réseaux d'approvisionnement en énergie se redessinent et la sécurité alimentaire est menacée. Les catastrophes climatiques, elles, se succèdent. Vagues de chaleur et feux de forêt en Europe, canicules records en Inde, inondations dévastatrices au Pakistan ou au Nigeria, sécheresse intense dans l'ouest de l'Afrique ou encore ouragan aux États-Unis. Après une COP26 focalisée sur l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce nouveau rendez-vous se concentre sur l'adaptation au changement climatique, ainsi que sur la justice climatique. Pour cela, les négociateurs pourront s'appuyer sur les deux derniers volets du rapport du GIEC paru en début d'année. Les principaux enjeux de ce sommet mondial, entre autres les engagements budgétaires des pays riches au cœur des débats. Car si les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions mondiales, ce sont bien les pays les plus pauvres, et notamment africains, qui en payent le plus lourd tribut. Mais également le financement pertes et préjudices. Terres submergées ou devenues trop arides, certaines conséquences du changement climatique sont irréversibles. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, le pacte de Glasgow a laissé une année supplémentaire aux États pour rehausser leurs engagements, bien trop insuffisants. Seuls 24 pays l'ont fait. L'Europe, qui s'était engagée l'année dernière à réduire ses émissions de 55% à l'horizon 2030, n'en fait pas partie. Un rapport de l'ONU dénonce d'ailleurs l'inertie des pays du G20, dont la France, qui ne pourront pas être en mesure de tenir leurs promesses. Pour 2030, voici quelques-unes des réjouissances de la COP27. VSDS aide et soins à domicile à Rerieux innove et lance les équipes à responsabilité élargie ERE. Nouvelle organisation donc pour l'association afin de pallier aux fortes problématiques de recrutement dans le secteur de l'aide à domicile implanté sur le territoire du Val-de-Saône. Le projet a été lancé le 27 septembre dernier. Son objectif est de réconcilier la qualité de vie au travail tout en assurant le bien-être des bénéficiaires. Avec nous Séverine Guillot, directrice du VSDS à Rerieux. Elle est jointe par téléphone.
Val-de-Saône Dôme Service. Nous sommes un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, donc un SPASAD. Nous avons un pôle soins avec un service d'aide et d'accompagnement à domicile, avec des aides à domicile. Et puis, nous avons un service d'accompagnement véhiculé pour la partie donc aide. Ensuite, au niveau du pôle soins, nous avons du coup une équipe constituée d'aides-soignants qui intervient à domicile des personnes âgées ou handicapées. Nous avons deux SIAD, donc un SIAD personnes âgées et un SIAD personnes handicapées. Et une petite exception chez nous, nous avons également un SIAD personnes âgées, personnes handicapées et vieillissantes. Et nous avons également une équipe mobile Alzheimer, donc au sein de 10 places au sein de l'équipe du pôle soins.
Donc une structure qui est très complémentaire, complète, j'allais dire, par rapport aux différentes offres aide et soins, hein, on est d'accord.
Oui, et puis tout ça est piloté par un pôle de coordination, en fait, avec des échanges réguliers toutes les semaines entre les deux pôles. Et puis tout cela est piloté ensuite par des services support tels que RH et Compta.
Alors si nous sommes ensemble, c'est parce que vous avez mis en place une nouveauté.
C'est un projet qui me tenait à cœur depuis que je suis arrivée. en fait, c'est un projet d'équipe autonome. Alors, une équipe autonome, c'est principalement sur le pôle aide. Hein. Les équipes ne sont pas autonomes, hein, c'est pas cela. En fait, c'est donner un peu plus de pouvoir et d'entente et d'écoute à nos équipes d'aide à domicile qui, quand je suis arrivée, ne rencontraient pas leurs collègues. Les salariés n'avaient pas de temps d'échange. Cela leur manquait. Du coup, ça m'a paru vraiment très important de mettre déjà en place des réunions de secteur et puis ensuite découler sur la mise en place des équipes à responsabilité élargie. Donc, on a répondu à un appel à projet grâce à notre fédération ADEDOM, la fédération du domicile, et nous avons été retenus et nous avons eu du coup un financement assez important de la part de la Fondation Bruno. Et puis nous avons mis en place donc une formation, puisque ça nécessite quand même des temps de formation, une réorganisation de nos services. Donc on a commencé en début d'année, donc on s'est formé. Les équipes de proximité, donc les managers ressources et moi en tant que direction. On s'est formé sur des temps différents parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux d'encadrement et de coaching en fait au niveau de nos équipes. Donc on s'est formé et cela aboutit le 27 septembre à une mise en place d'un grand lancement sur notre nouveau mode d'organisation. On a réparti nos activités et nos aides à domicile, nos salariés, en fonction de leur lieu d'habitation pour qu'ils soient au plus près, pour éviter ainsi trop de kilomètres et trop de déplacements, et en fonction de nos usagers. Donc, par exemple, une équipe de 6-8 salariés va se rencontrer deux fois par mois pendant une heure et demie dans nos bureaux, et ensuite, ils sont en référent des usagers. Donc, on est en train de lancer la équipe par équipe. L'idée derrière, c'est que l'équipe s'organise, l'équipe décide entre eux. Déjà, c'est leur offrir un peu plus de temps de cohésion et de temps de travail ensemble en administratif. Donc, réfléchir ensemble, planifier ses week-ends et ses interventions ensemble. Voilà, l'idée derrière, c'est d'arriver à faire des plannings, que ce soit eux, sous la supervision du manager de ressources, qui établissent leur planning ou alors le planning d'urgence quand il faut remplacer une collègue. C'est-à-dire que ce ne soit pas la panique comme on a pu le vivre ces dernières années, notamment avec le Covid, ou quand une salariée ou un salarié est absent le matin, et bien que le dispatch des usagers se fasse du coup sans trop de difficultés et dans la bonne entente et l'entraide. L'idée, c'est vraiment de développer de l'autonomie, de l'entraide, de la cohésion d'équipe pour une meilleure prise en charge à domicile, pour un bien-être au travail des salariés, puisque ça me semble important, et puis aussi une meilleure reconnaissance du coup de ces métiers, de l'aide et de l'accompagnement à domicile.
Plus d'échanges et de communication dans les équipes, c'est l'assurance d'une meilleure prise en charge, de moins de soucis pour la personne accompagnée. Il n'y a plus un salarié référent, mais une équipe référente, dont tous les membres connaissent parfaitement la situation. On s'affaire autour des Beaujolais nouveaux. Alors que le rendez-vous est donné pour le 17 novembre en France et dans le monde entier pour fêter l'arrivée des primeurs, l'occasion d'une discussion élargie du millésime 2022 avec Jean-Marc Lafont, il est viticulteur à Lantigny.
Et président de l'ODG des crus du Beaujolais. Écoutez, pour l'instant, les premières impressions sont très positives en termes de qualité. Ce millésime est magnifique. Tout le monde a constaté le bel été, chaud, voire caniculaire, et c'est un peu le deuxième point qui est un petit peu plus négatif, c'est effectivement les rendements qui seront relativement faibles au niveau de notre vignoble, puisque un certain nombre de vignobles très bien exposés ont subi la sécheresse et ont eu des pertes de volume à la récolte.
Des plus chanceux et d'autres des plus malheureux, c'est ça ce que vous allez dire ?
Oui, c'est ce qu'on appelle un peu dans notre métier une année un peu jalouse, c'est-à-dire les secteurs un peu de piémont, donc de sol un peu plus fondé, ont globalement bien réussi leur année. D'autres, sur des secteurs plus granitiques, un peu plus exposés plein sud, auront eux des rendements qui décrochent depuis début août avec des baisses significatives, puisqu'on parle de rendements, on va dire, entre 25 et 50 hectolitres à l'hectare en fonction justement des expositions et des positions du vignoble.
Alors, une baisse en quantité, ça implique quoi, en quelque
sorte ? Écoutez,
perte de marché ?
Une baisse en quantité, c'est toujours un peu délicat, dans la mesure où notre vignoble a actuellement une belle dynamique commerciale et que nous avons besoin de volume, après une récolte 2021 qui était historiquement faible. Donc là, on a effectivement, on espère, pour l'instant, on a qu'une vision partielle des rendements. On espère qu'on fera un peu plus de vin qu'en 2021, mais pour l'instant, on n'est pas totalement rassuré sur ce plan-là.
On va dire que ça fait une dizaine peut-être de décennies où on voit effectivement un réchauffement climatique hein, pour l'agriculture et évidemment pour la viticulture. Est-ce que l'on s'adapte petit à petit ?
Effectivement, le réchauffement climatique, nous on le constate, oui, même depuis une quinzaine d'années, puisque on voit que les vendanges chaque année sont de plus en plus précoces en moyenne. Là, c'est un fait indéniable. Après, comment on s'adapte ? Sur toute la partie recherche et développement, on essaye de prendre des plants de gamets qui sont un peu plus tardifs sur les nouvelles plantations. Vous savez que notre vignoble est actuellement en cours de restructuration pour être encore plus écologique, avoir une capacité à la fois de mécanisation mais aussi de travail du sol sous les rangs qui soit beaucoup plus adapté à des méthodes et à des conduites modernes. Donc tout ça, on doit l'intégrer aujourd'hui puisque quand on réfléchit à ça, on le réfléchit pour les 30, 40, 50 prochaines années.
C'était Jean-Marc Lafont, viticulteur à Lantigny. Et en conclusion à cette édition, Spot Mâcon, exposition rétrospective des 10 ans du Spot à la médiathèque de Mâcon, dès à présent et jusqu'au 26 novembre. Jointe par téléphone Béatrice Paul, elle est directrice événement au Spot Mâcon.
Cette année 2022 est un temps extrêmement fort pour nous puisque nous fêtons les 10 ans, donc 10 ans, 10 événements. Nous, on veut conforter l'image et l'appropriation de la salle par son public et associer les Mâconnais à cet anniversaire. Donc, c'est plus de 400 invitations qui seront offertes à la population. Une exposition rétrospective à la médiathèque sur les 10 ans, 10 ans de photos et de rétrospectives. Et puis, une action pour les enfants défavorisés hein, qui sont hébergés dans des structures d'accueil à qui nous offrons 200 places. Donc, ils ont fait leur sélection de concerts hein, auxquels ils souhaitaient assister et nous les invitons tout au long de l'année. Une étude également dans le cadre d'une action, le spot roule vers demain. Et on va entamer un gros travail d'implantation de bornes de recharge pour les véhicules et vélos électriques, puisqu'il y a une loi qui nous imposera le 1er janvier 2025 de mettre un certain nombre de places sur nos parkings pour les véhicules électriques. Et puis développer des produits locaux dans nos bars également. On vend déjà du vin et du crémant, évidemment, du coin, mais on va développer encore la vente de produits locaux. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Nous, c'est vraiment l'objectif, c'est aller à la rencontre de tous les publics hors les murs.
Il faut aussi rappeler peut-être que le spot a accueilli de très nombreux grands artistes. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, le record d'affluence des spectateurs, ça a été le 2 décembre 2016 avec le concert de Renaud. Après, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché au début à nous faire connaître. Hein. C'était une nouvelle salle qui est très appréciée par le public et les artistes et les équipes techniques, hein, puisque les équipes techniques, lors de concerts, ils arrivent entre 4h et 6h du matin et repartent le lendemain à 2h. Donc, il faut que tout aille très vite. Et le spot a une acoustique qui est vraiment très agréable, a une facilité d'accès qui est très pratique. Enfin, voilà, au niveau du montage, je dirais que ça roule. C'est pas une salle qui présente des contraintes. Donc, ça, c'est appréciable. On s'est appuyé là-dessus pour faire connaître le spot. Et c'est vrai que les productions, les artistes qui viennent, eh bien, lorsqu'ils repartent, n'ont qu'une envie, c'est d'y revenir. On a développé aussi notre réseau de promoteurs locaux qui pensent à nous lorsqu'ils font des routines de tournée. Maintenant, le spot fait partie du routing de tournée. Alors voilà, pour des artistes, hein, on a une capacité de 3300 places assises, 5600 en assis debout. On a augmenté la jauge, puisque au départ, à l'ouverture, en nombre de places assises, on était à 2960. On a pu le faire, alors avec un dossier, évidemment, hein, qui a été validé par les pompiers, la préfecture, la mairie, etc. Aujourd'hui, on a une capacité de 3300 places assises, ce qui est important pour les producteurs. Plus il y a de capacité d'accueil, plus l'équilibre économique s'améliore.
C'était Béatrice Paul, directrice événement au Spot Mâcon, dans le cadre d'une exposition rétrospective des 10 ans du Spot à la médiathèque de Mâcon. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.